Chrétien d'Orient, Sébastien de Courtois.
Bonjour, ce matin, Sébastien de Courtois au micro de Chrétien d'Orient. Nous allons prendre le large pour un voyage musical en compagnie de Gérard Kurdjian. Nous allons suivre ensemble le fil de deux traditions sacrées qui se côtoient depuis des siècles, qui s'étendent traditionnellement depuis le plateau anatolien jusqu'aux profondeurs du Caucase, puis le long des fleuves du Tigre et de l'Euphrate, le long des rives de l'ancienne Mésopotamie. Il s'agit des chants de l'église syriaque d'une part, puis des chants sacrés d'Arménie. Gérard Kurdjian, vous êtes passionné par les musiques et les spiritualités du monde. Vous avez fondé plusieurs festivals, dont celui du festival de Fès des musiques sacrées, alors qui est un festival très connu et dont vous avez dirigé, vous avez été directeur artistique de 1994 à 2009. Vous êtes aussi musicien et vous êtes convaincu que les musiques sont un puissant vecteur de communication entre les traditions, les langues et les cultures. Un ouvrage magistral le prouve, le grand livre des musiques sacrées du monde, qui sort chez Albin Michel, enfin qui est déjà présent aux librairies depuis quelques mois, mais un ouvrage magistral vraiment que j'encourage à découvrir, c'est une somme. Et vous abordez bien entendu les musiques dites chrétiennes, parce que c'est un petit peu la thématique de notre réunion ce matin, mais vous parlez de toutes les traditions dans ce voyage que vous avez fait. Gérard Kurdjian, bonjour.
Bonjour, bonjour, merci de m'accueillir.
Une première question, comment vous êtes-vous intéressé à cette facette immense que sont les musiques sacrées du monde?
Ah, c'est la trajectoire d'une vie, mais enfin, si je pouvais faire émerger quelques points, quelques paradigmes personnels, je dirais d'une part, peut-être qu'il y a quelque chose à voir avec mes origines arméniennes. J'ai fait mes études au collège arménien Samuel Mourad de Sèvres, qui est une émanation de la congrégation des Meuritaristes de l'île Saint-Lazare de Venise. Donc j'ai été imprégné pendant ces années de collège de la tradition sacrée arménienne. Et puis ensuite, en tant qu'Arménien de manière plus large, vous savez, les Arméniens sont un peuple qui sont des passeurs entre l'Orient et l'Occident, qui ont subi beaucoup de vicissitudes, et ils ont cette faculté à voyager et à faire voyager. Donc peut-être il y a là quelque chose qui émerge de cet atavisme ancestral. Et puis les hasards de la vie m'ont amené à voyager en Inde, à m'intéresser à la musique indienne, à voyager dans les pays d'Orient, à m'intéresser au Maghreb, au monde arabe. Et tout ça s'est infusé, un peu à mon insu, je dois dire. Et cet intérêt pour les musiques sacrées est né aussi probablement d'une aspiration intérieure que j'ai depuis enfant, depuis adolescent, vers l'intériorité, pour le dire vite.
Et une infusion que vous avez permis de partager par ce festival de Fès, dont vous avez été le directeur artistique. C'était pour vous un moyen formidable, justement, de montrer à un large public ces découvertes.
Tout à fait. C'était une très, très belle opportunité qui m'a été offerte sur la proposition de mes amis marocains en 1994. Donc, de prendre la direction artistique de ce festival, qui a été un creuset, je dois dire, où s'est forgé peut-être quelque chose de neuf, une nouvelle approche des musiques sacrées qui a englobé progressivement, parce que ça s'est pas fait de manière aussi fluide et harmonieuse. Il a fallu vaincre des résistances, y compris locales au Maroc, mais le festival est devenu un creuset où, par-delà les musiques strictement liturgiques et religieuses, nous avons réussi à intégrer des musiques savantes, des musiques entre guillemets dites profanes, mais qui ont un contenu intérieur tellement puissant qu'elles participent d'une certaine façon à l'émergence d'une forme de spiritualité intérieure qui dépasse le cadre religieux.
Alors j'ai retrouvé un petit peu votre programmation, je suis allé chercher, voir un petit peu ce qu'on pouvait pêcher et évoquer maintenant, et j'ai trouvé le chœur Mésopotamia que vous avez invité en 2002, je
Absolument.
Crois. Voilà. Alors ce sont des chants syriaques, une grande chanteuse libanaise, et des chants qui datent du IVe siècle, enfin qui ont été composés par saint Ephrem, hein, dont nous
oui,
avons,
qui est un immense personnage qui occupe une place éminente dans l'hymnologie de l'Église syriaque, mais bien au-delà des églises d'Orient de manière générique, je dirais. Hein.
Alors ce chœur mésopotamien, comment d'abord les avez-vous trouvés? Et ensuite, qu'est-ce que ça vous a apporté dans ce festival?
Mais écoutez, comment vous les avez trouvés? Vous savez, quand vous assumez la direction artistique d'une manifestation, vous êtes en contact un petit peu avec toute l'efflorescence des traditions et de ce qui vit, de ce qui s'actualise. Donc moi, je connaissais Fadia El-Haj, qui est une immense chanteuse libanaise, pour sa carrière personnelle. Et puis, cette idée de présenter ces chants liturgiques de l'église syriaque, c'est conjointe avec la présence de Fadia. Parce que c'est vrai que de présenter une voix féminine dans un cadre de chœur qui est assez souvent masculin, avait un côté, je dirais, novateur d'une certaine façon. Et puis, c'était aussi une manière d'intégrer la tradition de la grande musique arabe, la tradition du maqam, la tradition de la musique savante, puisque l'une des caractéristiques des chants des églises syriaques et des églises orientales du bassin mésopotamien est d'emprunter souvent, pas de manière systématique, mais d'emprunter souvent à la tradition musicale du monde arabe. Et donc avec Fadia El-Haj, qui est une mezzo-soprano qui maîtrise à la fois la tradition du maqam et aussi Jean-Sébastien Bach, on avait la possibilité d'avoir un mariage formidable entre ce chœur mésopotamien dirigé par le père Eli Kesrouani, un chœur dans lequel il y avait 10 voix d'hommes et 10 voix de femmes qui chantaient de manière monodique et monophonique, et d'avoir cette voix féminine, magnifique, qui survole le chant du cœur.
Gérard Kurdjian, une musique vivante, une musique qui se produit au cours de concerts ou que nous pouvons écouter uniquement pendant des liturgies?
Non, justement, la tradition de l'église syriaque est intéressante parce que, bien sûr, c'est une tradition vivante dans le cadre du calendrier liturgique de l'église, mais aussi on peut l'écouter en concert. Une autre voix dont j'aurais pu parler et que j'aurais pu intégrer était Sœur Marie Kérouz, la très grande chanteuse qu'on a beaucoup entendue, qu'on entend un petit peu moins ces dernières années. Et à la différence, par exemple, des chants de la liturgie copte qu'on a beaucoup de mal à entendre en dehors du cadre liturgique pour des raisons, à vrai dire, peut-être de circonstances ou d'opportunités. Il y a juste l'ensemble David de Georges Kyrillos qui avait publié à l'Institut du Monde Arabe un très beau disque, donc des chants liturgiques coptes. Mais hormis cette référence, on a beaucoup de mal à écouter en concert les chants de ces traditions-là. De même pour l'église d'Éthiopie, par exemple, l'église orthodoxe éthiopienne, on a beaucoup de mal à écouter en dehors du cadre liturgique ces chants dans le cadre de concerts. Ce qui n'est pas le cas, fort heureusement, de l'église syriaque, puisqu'on a la chance d'avoir cette tradition qui est toujours vivante et qui se produit dans des festivals.
Nous avons entendu un chœur, mais nous avons entendu surtout une voix féminine.
Oui, justement, la voix de Fadia El-Haj, Fadia Tomb El-Haj, qui est chrétienne, de tradition maronite et jacobite, et qui est issue d'une famille de musiciens, une famille de chanteurs, et qui a été nourri donc de cette tradition depuis son enfance. Hein. Et alors, ce qui est intéressant avec Fadia El Hadj, c'est qu'à la fois, elle a cette culture, je dirais, traditionnelle de la liturgie syriaque, avec sa connotation arabe, mais aussi sa connotation byzantine. Et ça, c'est très intéressant parce que...
Que voulez-vous dire, tradition byzantine ?
Parce que dans toutes ces traditions religieuses des églises d'Orient, un élément très important est l'influence de l'église de Byzance, et donc l'influence grecque. Par exemple, sur le plan des modes, les chants des églises d'Orient sont structurés selon le mode de l'octoékos, les huit modes qu'on retrouve dans le chant grégorien, avec les huit modes, les modes plagaux. Et donc, cette structuration par l'octoékos, les huit modes, qu'on retrouve aussi dans les chants de l'église arménienne, et aussi ce chant monodique très structuré, est propre à l'église de Byzance, et on a dans les chants de ces églises d'Orient, et particulièrement dans la tradition syriaque, deux branches, je dirais. La branche où on sent la tradition populaire arabe, avec à la fois son aspect savant et aussi son aspect populaire, et son aspect plus majestueux, et je dirais plus profond, plus noble, avec la tradition byzantine. Et ce que me disait Fadia El Hadj, puisqu'elle est une amie, elle me disait que lorsqu'elle était enfant, sa mère lui chantait des berceuses pour qu'elle s'endorme, et c'était des berceuses en réalité qui étaient des chants liturgiques byzantins.
D'une tradition à l'autre, nous allons mentionner maintenant les chants sacrés d'Arménie. On écoutera un passage tout à l'heure. Alors j'ai retrouvé encore dans votre programmation un ensemble, les maîtres de musique d'Arménie, que vous aviez aussi produit, je crois, vers 2003. De quoi s'agit-il ?
Mais écoutez, les maîtres de musique d'Arménie, c'est une très très belle histoire, parce que bon, j'ai eu une petite carrière de producteur, et je me suis rendu compte qu'à la fin des années 90, il n'y avait pas d'ensemble de musique arménienne qui se produisait dans les scènes européennes et mondiales. Et donc, comme j'ai dirigé un festival en Arménie pendant 2 ans, au tournant des années 2000, j'ai eu l'idée de créer ce groupe, et j'ai rassemblé certains parmi les meilleurs des musiciens traditionnels d'Arménie, et j'ai constituer avec eux un répertoire particulier, puisque je passe les détails, mais c'était pas quelque chose qui allait de soi. À la suite de l'imprégnation de la période soviétique, la tradition nationale arménienne avait été occidentalisée et a été passée, je dirais, au tamis d'une perspective très occidentalisée. Donc on est revenu un petit peu aux racines. Et dans ces racines, j'ai souhaité intégrer aussi donc des chants sacrés d'Arménie. Chants sacrés d'Arménie qui sont évidemment reliés, alors là, totalement à l'histoire du peuple arménien, puisque... Vous le savez probablement, l'Arménie a été le premier État, en tant qu'État, à adopter la religion chrétienne en 301. Et dès cette époque-là, il y a eu cette rencontre, cette fusion, je dirais, d'une part entre l'esprit national arménien et la religion arménienne. Donc c'est vrai que l'Église apostolique arménienne, qui est donc l'Église qui est née de cette christianisation, est une Église dans laquelle la foi est... Le sentiment d'appartenance nationale sont extrêmement liés.
Et comment ça se manifeste en termes de musique, en termes de composition ?
Alors en termes de musique, ce qui est intéressant, c'est que les grands compositeurs non seulement de la liturgie, mais des chants sacrés d'Arménie, vous voyez, on peut déterminer deux branches dans la tradition du chant sacré d'Arménie. Il y a la tradition liturgique, avec les chants de messe, et ensuite il y a ce qu'on appelle les charaganes. Les charaganes, ça veut dire le collier de perles précieuses. Charagan. Les charaganes sont des chants, des élégies de nature religieuse, mais poético-religieuse, composées par des moines qui étaient des membres de la haute aristocratie arménienne, dont étaient aussi membres des familles royales, des membres de la famille royale. Donc on a infusé d'une certaine façon dans les compositeurs de ces charaganes cette osmose, d'une certaine façon, entre des compositeurs, des artistes, des intellectuels, des philosophes, des poètes, des érudits et le personnel politique, les rois, les princes et les grands dynastes arméniens. Donc, on a là quelque chose qui illustre un petit peu mon propos d'une certaine façon, puisque...
Une musique de cour, peut-être, d'une certaine manière?
Musique de monastère. Pas musique de cour, puisque ce ne sont pas des chants qui se chantaient à l'occasion de réjouissances, ce sont des chants qui rythmaient Comme le chant grégorien, d'une certaine façon, est né dans les monastères, c'était un chant qui rythmait, d'une certaine façon, la liturgie des heures. Mais il se manifeste dans ces charaganes quelque chose qui est très propre à l'esprit arménien, un rapport avec la nature. Il y a une présence de la nature qui est perçue comme le lieu d'une épiphanie sacrée. Et on le sent particulièrement dans cette tradition des charaganes avec un chant que vous allez peut-être passer maintenant qui s'appelle Nordzarik, la nouvelle fleur, la fleur nouvelle, qui est un chant pour la résurrection.
Nous écoutons. Expliquez-nous un petit peu, Gérard Kurdjian, ce que nous écoutons.
Donc nous écoutons la très belle voix d'Anna Maïlian, qui est une chanteuse arménienne accompagnée par les maîtres de musique d'Arménie, qui chante donc ce charagan, ce chant, cette élégie poético-religieuse à la gloire du Christ ressuscité. Havun, Havun, c'est la colombe. Et donc c'est, Nordzarik, c'est la nouvelle fleur. Je m'excuse, j'ai bifurqué vers le chant final. La nouvelle fleur, Nordzarik, et cette nouvelle fleur, c'est le Christ ressuscité. Ce chant a été composé par Nerses Shonorali, Nerses le Gracieux, au XIIe siècle. Le Gracieux parce qu'il avait une éloquence extrêmement subtile et extrêmement fleurie. Et Nerses le Gracieux, ça va illustrer ce que je disais il y a quelques minutes, était le catholicos de l'Église arménienne.
Le
patriarche de l'Église arménienne.
Qui lui-même était compositeur,
hymnologue et compositeur de ces très 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 beaux chants qui datent du XIIe siècle.
Ce qui me semble important par rapport à la tradition syriaque, c'est que nous sommes dans un autre monde, même si ce sont des mondes qui se côtoient. Nous sommes dans le Caucase, nous sommes dans l'Anatolie.
Tout à fait.
Peu d'influence du monde arabe.
Absolument. C'est ce qui différencie d'une certaine façon c'est les traditions des chants de chacune de ces deux églises. Bien entendu, le monde syriaque, le monde mésopotamien est au cœur du monde arabe. Et d'une certaine façon, il a subi les influences, bien évidemment, des musiques à la fois savantes et populaires. L'Arménie se situe le territoire historique de l'Arménie se situe dans l'Anatolie orientale. Et bien évidemment, la tradition arabe n'a pas pénétré. Bien que certains exégètes très pointus arrivent à déceler quelques influences, mais franchement, c'est de l'homéopathie, je dirais. Par contre, il y a effectivement, dans la tradition liturgique arménienne, l'influence du chant byzantin, qu'on ne trouve pas ici, dans ces chants de charagan, qui sont quelque part plus proches de ce que chantaient les bardes arméniens. Et là, il y a effectivement une connotation extrêmement intéressante parce que la tradition des bardes, ce sont les achours. Achours, c'est ishq, ça vient de l'arabe qui veut dire amour. Ce sont des troubadours qui composaient des chants d'amour d'une certaine façon. Et ils composaient en utilisant des mélodies profanes. Mais en même temps, il y a ce sentiment élégiaque qui relie Dieu et la nature dans le cœur de ces compositeurs, et c'est cela qu'on trouve dans ces charaganes, parce que on n'a peut-être pas eu le temps d'entendre suffisamment la beauté de cette nouvelle fleur qui jaillit de la bouche d'Anna Maïlian, mais il y a quelque chose qui est de l'ordre d'une sensibilité extrêmement voluptueuse d'une certaine manière. Et ça éveille effectivement un sentiment de nostalgie, un sentiment d'amour, et un sentiment d'effusion intérieure qui est extrêmement puissant, qui déborde le cadre purement liturgique.
Nous parlions tout à l'heure d'une musique vivante. Est-ce qu'il y a des concerts? Est-ce qu'il faut aller à l'église arménienne, peut-être, pour trouver ce genre de chant, ces
charagans? Ah ben écoutez, oui. Alors, les charagans, vous ne les trouverez pas à la messe, puisque, sauf exception, ils ne sont pas chantés à la messe. Mais bien sûr, il y a d'excellents musiciens, des artistes arméniens qui circulent, et on peut écouter ces charagans. Je l'espère. Il faudrait effectivement faire un travail d'approfondissement et resserrer un peu les sensibilités des musiciens, parce que les musiciens arméniens sont globalement un peu comme tous les musiciens du monde. Ils vont un peu quelquefois vers des choses un petit peu plus faciles, plus aisément transmissibles, parce que là, lorsqu'on écoute ces charagans, on est vraiment dans une dimension intérieure. Ce sont des prières chantées, si vous voulez, d'une certaine façon, mais des prières qui sont des prières libres.
Parlez-nous un petit peu de l'instrumentation. J'ai entendu des instruments.
Oui, il y a donc dans l'instrumentation, il y avait un joueur de tar qui est un luth qu'on retrouve dans le monde iranien, hein. Et puis il y a le doudouk, le hautbois arménien traditionnel, qui justement est un instrument très intéressant parce que c'est pas un instrument liturgique, mais il a une telle puissance d'évocation, une telle puissance d'effleurer les profondeurs de l'âme, qu'il est aussi utilisé dans un cadre liturgique. Par exemple, en Arménie, le doudouk est utilisé lors des funérailles, justement parce qu'il a cette faculté de lamentation, cette faculté, cette sensibilité extrêmement profonde, et puis cette sonorité aussi qui est très suave et qui est très proche de la voix humaine. Et c'est un instrument qui est à cheval, justement, entre le profane et le sacré.
Nous allons terminer ce voyage par une dernière pièce musicale. Qu'est-ce que nous allons entendre?
Oui, donc merci de finir avec ça. C'est une pièce de Saint Grégoire de Narek. Saint Grégoire de Narek était un moine, poète, compositeur. Il est avec Saint Ephrem, l'un des deux docteurs de l'Église, membre des Églises orientales. Et il a composé, au tournant du 10e et 11e siècle, cette magnifique pièce, Havun Havun, en l'honneur du Christ ressuscité.
Gérard Kurdjian, nous étions avec Saint Grégoire de Narek. Je vous remercie d'être venu jusqu'à nous.
Merci de m'avoir accueilli.
Je rappelle le titre de votre livre, Le Grand Livre des Musiques Sacrées du Monde, chez Albin Michel. Je remercie Dany Journaud, Anne-Catherine Lochard et Philippe Bredin pour la réalisation de cette émission. Nous retrouvons maintenant le service protestant. Merci. Zuhu.